plein de super prénoms. Francis en fait partie, je pense.
Francis, ça m'évoque une chanson de Cœur du Pirate.
Je connais pas Francis personnellement, mais ça me fait penser à Francis Holm. Des choses assez noires, assez sombres.
Si ça évoque, je sais pas, un peu tout le monde, un peu n'importe qui.
Francis est une émission pluridisciplinaire avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en travers.
Here we go. One, two, three.
Salut à tous, vous êtes dans Francis, émission de Prune, chaque second samedi du mois, de midi à 13h. Jamais une émission n'a aussi bien porté son nom, car dans Francis, cette année, nous allons explorer la planète Francis en long, en large et en travers.
Et qui est Francis ?
Vous en découvrirez un, chaque second samedi du mois, de midi à 13h. Cette année, nous allons essayer de vous parler d'eux et de vous montrer que Francis n'est qu'un prétexte pour vous parler de n'importe quoi. Je suis Romane et dans Francis ce soir, je suis accompagnée de Alexis.
Salut.
Elias.
Salut.
Elias s'appelle Elias avec un Z.
Et je suis l'animateur et réalisateur.
Et pour ce mois-ci, on a décidé de faire un peu dans le Prune Corporate. On a invité deux personnes d'autres émissions de Prune pour nous parler de notre sujet dont je vais parler juste après. Donc, on accueille Marie.
Bonjour.
T'es dans quelle émission du coup ?
Dans le Curiosité de Prune le mardi. C'est de 18h à 19h, tous les mardis.
Et Elias.
Avec un S.
Avec un S.
Et bonjour, je suis à Rouge Fauteuil le dimanche, tous les derniers dimanches du mois, de midi à 14h.
Alors, après avoir parlé de BD puis de politique, nous allons parler de cinéma avec Francis, le plus connu qu'on ait abordé. Notre Francis du mois est membre du Nouvel Hollywood, aux côtés de Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, Brian De Palma, Michael Cimino et Dennis Hopper. Il a remporté 5 Oscars et il fait partie des 9 réalisateurs ayant eu 2 Palmes d'Or. Et oui, nous allons parler de Francis Ford Coppola. C'est parti ?
Yes, c'est parti.
Alors, on va faire une émission très biographique, donc on va commencer par la naissance de Francis Ford Coppola. Il est né le 7 avril 1939 à Détroit, dans le Michigan, de parents d'origine italienne.
Et donc son père, Carmine Coppola, est flûtiste, auteur et compositeur. Et sa mère, quant à elle, Italia Coppola, est la fille d'un propriétaire de salle de cinéma. Et elle était une cuisinière italienne de talent. Elle a d'ailleurs sorti le livre de recettes Mamma Coppola Pasta Bucca.
Enfant, le petit Francis avait la polio et il restait chez lui alité. Il avait donc le temps de créer et imaginer. Il créait par exemple des spectacles de marionnettes et réalisait des petits films avec la caméra 8 mm de son père.
En 1955, à 16 ans, il entre à l'université d'Osfra où il fait des études de théâtre et remporte ses premiers succès. En 1959, il revient à ses premiers amours en s'inscrivant au cours de cinéma de l'université de l'UCLA.
UCLA.
Bon, c'est pas hyper épanouissant pour lui parce que d'une, il est fauché et en plus, les cours, ils sont vraiment pas terribles. Donc, il tourne son premier court-métrage appelé The People sur un gars qui observe les séances d'une photographe de nu. Mais le seul distributeur qu'il trouve lui demande de créer un long métrage avec son court métrage, un autre court métrage de western nudiste qui parle d'un cow-boy qui suite à une chute de voiture voit des femmes nues partout. Et il lui propose de compléter ça avec de nouvelles séances de tournage. Donc ça donne Tonight for Show. C'est son premier long métrage. Enfin, c'est pas son vrai premier long métrage. Il y a que lui au générique, mais c'est pas son vrai premier long métrage parce qu'il a pas tout fait. Et il collaborera avec son père et Jack Hill, qui est son camarade de Lucla. Voilà. Après, ça c'est une petite partie de sa première expérience. Mais en fait, ce qui va être super important à UCLA, c'est qu'il va avoir l'opportunité de travailler pour Roger Common. Parce qu'il cherche des apprentis et du coup, notre cher Francis va sauter sur l'occasion.
D'ailleurs, il faut noter que Francis Ford Coppola, c'est pas la seule personnalité majeure du cinéma à avoir été engagée par le producteur-réalisateur. Car Martin Scorsese, Peter Bogdanovich et Joey Dante, je sais pas comment on prononce ça.
Joe Dante.
Ont aussi commencé sous la direction de Roger Corman.
Lors de sa collaboration avec Roger Corman, il va exercer différentes fonctions monteur pour Zebo Novoit de Mikhail Zakoukov et Alexander Kosk. Alors, je ne sais pas trop comment prononcer, désolé. Hein. Il est répétiteur sur Tower of London, second réalisateur dans The Young Racer et producteur associé sur L'Halluciné.
Ouais, durant cette collaboration, il va devenir le roi du mash-up parce qu'il va récupérer plein d'extraits de space opéra communiste sur lesquels il change les dialogues et efface les signes communistes pour compléter les films et avec Jack Hill profite de divers événements pour tourner des plans gratuitement.
Franchement, si on avait été à notre ère, à l'ère de YouTube, il aurait été une star de ouf. Et du coup, pour en revenir à notre sujet, il s'est fait un vrai nom en tant que scénariste durant cette période et il tourne son vrai premier long métrage qui est Dementia 13.
En fait, il travaillait en tant qu'ingé son pour The Young Racers, boulot pour lequel il n'était pas très bon parce qu'il avait fait croire à Corman qu'il savait faire, mais alors qu'il savait pas du tout faire. Il avait accepté ça juste pour récupérer le budget restant du film pour son nouveau film justement Dementia 13. Donc il a écrit le scénario en une nuit et il a obtenu $22,000 de budget de la part de Corman. Puis il a utilisé les décors irlandais de The Young Racers pour tourner Dementia 13. La plupart des acteurs sont ses amis et ses camarades de l'UCLA.
Il déclara d'ailleurs à propos de ce film, hein, parce qu'il n'avait pas trop la grosse tête, « Je pense que c'était très prometteur et plein d'imagination à bien des égards. Certaines images comptent parmi les plus belles que je n'ai jamais tournées. Principalement parce que j'ai composé le moindre plan. Il n'a pas du tout la grosse tête. Et par la suite, il va travailler sur son projet d'étude qui est Big Boy et où il commence à développer sa critique de la famille.
Le film a reçu la caméra d'or à Cannes, mais le résultat a été annulé car ce bon vieux Claude Lelouch avait voté pour un film dont il était lui-même producteur.
Je vois pas le problème.
Ça, c'est Cannes. Bon, des affaires de production et de distribution, c'est pour ça que ça a plus grande valeur une palme d'or.
Donc, Francis Ford Coppola, donc on a parlé qu'il avait commencé à travailler sur le sujet de la famille, mais la famille, ça n'a pas été seulement un sujet, ça a été aussi des collaborateurs pour lui. Donc, Elias, tu nous ferais pas un petit point famille?
Bah ouais, tout de suite, on va faire un petit point sur la famille Coppola qui est une famille très très étendue. Donc chez les Coppola, la vocation artistique est entrée dans la famille assez tôt, dès la fin des années 20, début des années 30, à l'époque où deux frères, Carmine Coppola, donc le père de Francis Coppola et Anton Coppola, étaient chefs d'orchestre et compositeurs pour le cinéma, pour les comédies musicales à Broadway ou pour des opéras.
Et moi je trouve en tout cas que... Le fait qu'il ait eu un père compositeur, que Carmine Coppola ait travaillé sur ses films et qu'il ait aussi travaillé avec lui, a beaucoup influencé son cinéma. Et ça se voit notamment dans le soin qu'il a pris dans la bande-son de chacun de ses films. Mais pas que Le Parrain, Apocalypse Now, mais évidemment Conversation Secrète, comme tu vas...
Même Dracula, ou d'autres films comme Tétro... Tout ça.
Ouais, c'est plus connu, c'est vraiment sa participation à Apocalypse Now. Tu parlais de Conversation Secrète, c'est pas de son père, c'est de Jair.
Oui,
mais c'est Jair, oui, qui est son beau frère. Ce sont des influences.
Qui est le... Je parlais des influences. sur le fait qu'il ait vraiment travaillé sa bande-son.
Bah, c'est la musique a un rôle chez Coppola assez important.
Assez prépondérant.
Oui, exactement. Il y a une influence aussi de la forme de l'opéra, mais on y reviendra.
On va écouter un petit morceau composé par Carmine Coppola pour Apocalypse Now. Donc la sœur de Francis Ford Coppola, elle, s'est mariée avec David Shire, dont je parlais tout à l'heure, qui composa des musiques pour Francis Ford Coppola. 10 ans plus tard, on va vers la génération suivante de la famille, avec les enfants de Talia Coppola, qui sont Jason Schwartzman, qui a été un des acteurs principaux de Wes Anderson dans 4 ou 5 de ses films.
Yes. Meilleur réalisateur au monde.
Et le petit frère de Jason Schwartzman, Robert Schwartzman, qui est le leader du groupe de rock Rooney, et qui a choisi, lui, de rendre hommage à ses ancêtres en se faisant appeler sur scène Robert Carmine en hommage à son grand-père. On a une personne de la famille dont on n'a pas parlé, c'est Auguste, le frère de Francis Ford Coppola, qui lui a eu une carrière plutôt d'universitaire. Il n'a pas été vraiment sous les feux de la rampe comme le reste de la famille, mais c'est le père de Nicolas Coppola, qui est plus connu sous le nom de Nicolas Cage.
Yeah.
Donc Nicolas Cage qui a fait sa toute première apparition dans un film de son oncle, The Outsiders, en 1983, mais sa carrière a vraiment décollé dans les années 90 quand il était un des grands barons du film d'action américain, de films comme Rock, Les Ailes de l'Enfer, Volte-Face ou Snake Eyes. Je vous invite à écouter tous les épisodes du podcast 2 heures de perdu sur les films susnommés.
Vas-y, c'était ma recommandation.
Donc Francis Ford Coppola, lui, il est moins prolifique depuis les années 2000, mais il a eu 3 enfants. Giancarlo, Roman et Sofia. Roman et Sofia qui sont tous les deux réalisateurs. On connaît bien Sofia qui s'est fait un prénom avec des films comme Virgin Suicide, Just in Translation, Marie-Antoinette et autres. J'ai pas toute la liste en tête. Et Roman Coppola qui lui a réalisé des films dont CQ et Dans la tête de Charles Swan 3. Sofia Coppola, elle est mariée également avec le chanteur du groupe Phoenix, un groupe français. Et comme on travaille en famille chez les Coppola, depuis une quinzaine d'années, ils composent tout ou partie des bandes originales des films de Sofia Coppola.
Comme Marie-Antoinette.
Par exemple. Ouais. Enfin, il a composé toute la BO de Marie-Antoinette, mais des chansons de Phoenix apparaissent dans tous les films de Sofia Coppola. Et bon, un peu plus triste hein, quand même, on peut noter Giancarlo Coppola, qui était le dernier fils de Francis Ford Coppola, qui est décédé dans un accident de bateau à 22 ans. Juste avant la naissance de sa fille Gia, qui elle aujourd'hui elle doit avoir 28 ou 29 ans, elle est également réalisatrice.
Elle a fait Palo Alto.
Ouais, aussi. C'est ça, avec James Franco et j'ai oublié l'autre.
Ah, je sais plus du tout. Hein.
L'autre tête d'affiche de ce film.
Je sais plus du tout.
Donc en résumé, quand même, on peut dire que la famille Coppola, elle a marqué le cinéma et plus largement le divertissement hollywoodien depuis une cinquantaine d'années maintenant. Et aujourd'hui, finalement, ils sont une famille active dans le cinéma avec des réalisatrices et réalisateurs de 30 à 90 ans. Parce que j'en ai pas parlé, mais il faut aussi noter que Eleanor Coppola, la femme de Francis, elle a réalisé 2 ou 3 documentaires sur des films de Francis Ford Coppola. Et là encore, dernièrement, en 2016, elle a écrit et réalisé un film pour Netflix. Tandis que pour l'actualité, le dernier film Sofia Coppola, Les Proies, est sorti cette année.
Et il était bien.
Ah, je l'ai pas vu du tout.
C'est impressionnant, il faudrait recenser le nombre de films liés à la famille Coppola.
C'est le parrain du cinéma.
Ouais, c'est
non,
ouais.
on le surnomme le Napoléon du cinéma. Et je pense que...
A raison. Peut...
Ouais.
Et donc aujourd'hui, la famille Coppola, c'est une marque déposée qui a pour slogan, vous pouvez vérifier sur le site coppolafamily.com, qui a comme slogan cinéma, gastronomie, vin, escapades et aventures. Donc en fait, Family Coppola, c'est une entreprise, un petit empire industriel hein, qui regroupe toutes les activités liées au cinéma, aux restaurants et aux hôtels possédés par la famille Coppola. Et donc, clairement, escapades et aventures, c'est hôtellerie de méga luxe pour les gens qui ont méga les moyens. Donc nous, on se contentera de vous recommander les coffrets DVD ou les petits téléchargements Google pour vous faire vos idées sur le cinéma de Francis Ford Coppola. Quoi qu'à la rigueur, son vin, j'ai regardé, il y a des tarifs de bouteilles très abordables, autour de 15$, hein, ce qui fait 10-11€.
À consommer avec modération.
Mais d'ailleurs, ouais, même sur le vin, on peut noter que on parlait d'une nouvelle Hollywood tout à l'heure où ils étaient tous très amis entre eux. Par exemple, Coppola, il a sorti des bouteilles de vin qui sont avec des étiquettes, par exemple de Star Wars ou alors les dents de la mer. Donc, c'est-à-dire que le vin de Coppola rapporte aussi de la thune à George Lucas, à Steven Spielberg. Et voilà, on fait croquer la famille, mais aussi les copains.
Lucas, bah on va en parler tout de suite d'ailleurs. En 1969, avec George Lucas, ils se sont rencontrés sur le tournage de La Vallée du Bonheur et ils fondent une société de production qui s'appelle American Zoetrope. Zoetrope, je ne sais pas trop comment le prononcer. Et du coup, en gros, ça va rapporter de l'argent à leur société de production. Donc, voilà, c'est normal qu'ils soient amis et qu'ils puissent faire de la pub l'un pour l'autre facilement. Et du coup, ces réalisateurs, artistes, scénaristes, metteurs en scène, techniciens qui prennent le pouvoir de leur film, c'est très, très symptomatique du nouvel Hollywood. Et en fait, c'est un mouvement qui va se permettre à ce moment-là d'aborder des thèmes qui sont tabous jusqu'à maintenant. C'est comme les massacres, la corruption, la violence et plein de thèmes qui étaient tabous.
Le sexe aussi, parce qu'on a cité De Palma très centré là-dessus. C'est du Hitchcock sans la censure.
Oui, c'est vrai. Et du coup, bon... Loin du sexe et des massacres et de la corruption, cette société de production va produire Les gens de la pluie de Francis Ford Coppola, puis THX 1138 de George Lucas. Mais à cette époque, c'est complètement un échec. En fait, ils n'en peuvent plus tout à ce moment-là. Et du coup, c'est à ce moment-là que Coppola accepte de prendre la commande de l'adaptation d'un roman de Mario Puzo, le parrain. Du coup, là, je vais laisser la parole à Théo, qui n'est pas là aujourd'hui, vous aurez peut-être remarqué, mais qui nous a enregistré une chronique sur ce film, et plus particulièrement sur son impact dans son époque.
La trilogie du parrain de Coppola, dont la première partie est sortie en 1972, donne l'occasion de nous intéresser au sujet de l'immigration aux États-Unis, et plus particulièrement à l'immigration européenne, au travers du parcours du personnage de Vito Corleone, âgé de 9 ans lorsqu'il débarque à Ellis Island en 1901.
Quel est votre nom?
Comment tu t'appelles? Réponds, petit. Comment tu t'appelles?
Tournorme. Vito Andolin, natif de Corleone.
Corleone, Vito Corleone. Ça va. À la visite. Suivant.
Dites-lui qu'il a la variole. Isolement, 3 mois.
La plus grande vague d'immigration aux États-Unis date du début du XXe siècle. Les migrants sont pour la plupart d'origine européenne, venant d'Allemagne, d'Irlande, d'Italie, d'Europe de l'Est, et majoritairement juifs ou catholiques, fuyant les conflits qui bouleversaient l'Europe. Après une traversée de l'Atlantique dans des conditions misérables, les migrants se retrouvaient bloqués à Ellis Island, où ils étaient examinés. S'ils paraissaient trop malades ou trop faibles, il était courant de les envoyer chez eux. Poussés par la promesse d'une vie meilleure, les émigrants aux États-Unis ont toujours voulu trouver leur place et se fondre dans le moule américain. Une fois débarrassés des impératifs administratifs, les nouveaux citoyens américains sont libres de circuler sur tout le territoire. Pourtant, un tiers des immigrants ne quittent même pas New York, et s'y installent durablement. Le regroupement des habitants se fait donc par leurs origines et donne lieu à l'apparition d'une division ethnique et culturelle des quartiers. Par exemple, Little Italy pour les Italiens, Lower East Side pour les Allemands ou encore Chinatown pour les Chinois. Malgré ces difficultés lors de leurs installations, les migrants s'intègrent progressivement dans la société au fur et à mesure que leur niveau de vie s'améliore, même s'ils gardent des particularités. Le gouvernement de Roosevelt met également en place divers programmes de développement industriel, urbain et agricole, afin que les immigrants se dispersent sur l'ensemble du territoire national, ce qui devait faciliter leur intégration et aider au développement national. Cependant, le clivage américain de souche et américain issu de l'immigration récente pose toujours des problèmes à ceux qui sont venus réaliser leur rêve américain.
Vous aviez le paradis en Amérique. Une affaire qui tournait, une bonne petite vie tranquille, la police, les tribunaux pour vous protéger. Vous n'aviez pas besoin d'un ami comme moi. Aujourd'hui, on est pleuré chez moi en disant « Don Corleone, rendez-moi justice !»
Le racisme et les discriminations sont un problème majeur depuis l'époque coloniale et de l'esclavage. Le racisme accorde aux Américains blancs des droits et des privilèges refusés aux racisés jusqu'aux années 60. À cette époque, de nombreux groupes non-protestants immigrants d'Europe sont victimes d'exclusion et de discrimination fondées sur l'ethnicité dans la société américaine.
Je n'aime pas les gens de votre race. Je n'aime pas vous voir débarquer sur cette terre honnête, les cheveux gominés, et tirés à quatre épingles dans vos costumes d'alpaga, essayant de vous faire passer pour des Américains bon teint. J'accepte d'être en affaire avec vous, mais à la vérité, je méprise toutes vos mascarades, l'indécence avec laquelle vous vous mettez en avant, vous et ceux de votre foutue famille.
Divers groupes d'immigrants euro-américains ont été victimes de discrimination, soit sur la base de leur statut d'immigrant ou de leurs origines. Au XIXe siècle, ce sont principalement les Irlandais qui sont montrés du doigt à cause d'un sentiment anticatholique national. Au XXe siècle, apparaît la discrimination contre les immigrants d'Europe méridionale et orientale, italo-américains et pogono-américains. Due en grande partie au nordicisme qui considère tous les immigrants non-germains, non-scandinaves ou non-britanniques comme racialement inférieurs.
Tous ces enfoirés de Rital, vous me faites marrer. Alors que je te rends le service de prendre Freddy avec moi quand vous êtes dans la menace, toi tu veux me foutre à la rue ?
Avec les deux guerres mondiales, une discrimination contre les germano-américains et les italo-américains émerge et se traduit par leur internement lors de la Seconde Guerre mondiale. En parallèle, le racisme noir-blanc continue de se développer et prend le devant de la scène politique dès les années 30. On peut souligner que ce flot continu d'émigrants qui arrive chaque année aux États-Unis est accusé de créer une pression sur le monde du travail et d'induire une baisse des salaires. Ces nouveaux venus, italiens, catholiques et juifs, inquiètent les dirigeants protestants représentant près de 40% de la population des grandes agglomérations. En réaction à cette augmentation des populations d'un million d'habitants par an, l'État décrète le Quota Emergency Act en 1921, limitant le nombre d'immigrants à 3% du nombre de résidents de ce même pays vivant aux États-Unis. Cette loi ne sera remplacée qu'en 65 par un système préférentiel fondé sur les aptitudes professionnelles des migrants et leurs relations familiales avec des Américains.
J'ai travaillé toute ma vie et j'en suis fier à prendre soin de ma famille. J'ai toujours refusé d'être un pantin, de danser au bout d'un fil tiré par des gros bonnets. J'en suis pas honteux, c'est ma vie, mais je voulais que quand ton heure viendrait, que ce soit toi qui tire les ficelles. Sénateur Corleone, gouverneur Corleone, ou bien
être un politicien.
À toutes les époques de l'histoire américaine, de guerre coloniale jusqu'au début du XXe siècle, des hommes et des femmes du monde entier ont tenté leur chance aux États-Unis. Ils sont arrivés en tant qu'étrangers, dont la culture, les coutumes, la langue et la religion ont paru inadaptées et incompatibles avec l'Amérique. Les immigrés et leurs descendants sont tout de même parvenus à participer à la vie politique et sociale du pays, apportant leur pierre à l'édifice à la société américaine.
Tu reconnais ?
Oui.
Cenco Ville d'Olive. C'est là que notre grand-père a commencé. Il a commencé livreur à $3 par semaine. 3 ans plus tard, il était patron.
Le rêve américain.
Ouais.
Malgré une histoire issue d'importants mouvements de population, les États-Unis restent mauvais en termes de parité économique et sociale entre natifs et immigrants. Aujourd'hui, la société américaine se retrouve encore confrontée à un débat sur l'immigration et le rôle des immigrés dans son sein. Pour certains, les nouveaux immigrés semblent peu enclins à s'assimiler au reste de la société, étant trop déterminés à maintenir leur identité propre, trop éloignés des valeurs américaines fondamentales. Et comme par le passé, on reproche aux immigrés de voler le gagne-pain des citoyens américains et de constituer un poids pour les systèmes éducatifs et les services sociaux.
N'oublie pas les cannelloni. Quel est le nom, mon cœur ?
Comme le dit une devise très très éclairée, des papiers pour toutes et tous, ou plus de papiers du tout, ça faciliterait bien des choses aux États-Unis et en France aussi d'ailleurs. Juste, moi j'ai envie de noter un truc, c'est quand même marrant de parler d'un clivage entre Américains dits de souche et Américains issus de l'immigration récente, en sachant que les Américains dits de souche...
Ils sont tous morts.
Voilà, exactement. Ils sont, et les Américains de souche, comme on les appelle maintenant, ils sont ni plus ni moins que les colons qui ont exterminé la population amérindienne. Mais ça va, heureusement. Les Américains n'oublient pas chaque année la date de Thanksgiving pour fêter la bonne entente entre colons et indigènes. Donc merci à eux.
Super.
D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, Marlon Brando, qui joue le grand Don Vito Corleone, dans le Parrain, a refusé l'Oscar du meilleur acteur en 1973 pour protester contre la sous-représentation des Amérindiens à Hollywood, mais aussi dans la société américaine en général. Donc merci à lui pour cette solidarité.
Alors, on l'a pas dit, mais je remercie Calcul pour sa chronique quand même.
Ouais.
Elias, il nous a sélectionné un petit morceau de musique. D'ailleurs, tu nous as sélectionné quelques musiques de films de Coppola et tu aborderas les films des années 80 plutôt.
Ouais, bah des films qui sont mineurs considérés comme mineurs dans la filmographie de Coppola. Là, on va commencer, on va écouter un petit morceau de rock garage, un classique des débuts des années 60. C'est Out of the Limits de The Markets et ça apparaît dans la BO de The Outsiders en 83, donc qui a vu les débuts de Tom Cruise et Nicolas Cage dans le même film. Quelque chose qui serait impossible à refaire aujourd'hui parce que Tom Cruise, il est dans des films co-produits, co-écrits par Tom Cruise pour Tom Cruise, en honneur et à la gloire de Tom Cruise. Et Nicolas Cage, lui, c'est plutôt dans des films d'action maintenant à tendance plus ou moins nanardesque. Ce qui n'empêche pas qu'il reste un des acteurs américains les plus cool des années 90, selon moi. Et il mériterait une émission entière largement, mais il ne s'appelle pas Francis du tout.
Francis
Merde. Bah du coup, vous êtes sur Prune, 92 FM.
On a parlé du Parrain et maintenant je vous propose qu'on discute de ces deux autres succès avec nos invités et commençons par La Conversation Secrète avec lequel il remporte sa première Palme d'Or au Festival de Cannes en 1974. Donc, est-ce que, Elias, tu peux nous présenter un peu le film ?
Et oui, donc en 1974, ce sont deux films de Coppola qui étaient présentés aux Oscars, Le Parrain opus numéro 2 et Conversation secrète. Conversation secrète, c'est donc l'histoire d'un espion industriel joué par Gene Hackman, qui est un acteur emblématique du Nouvel Hollywood, qui a joué aussi chez William Friedkin, ou bien d'autres réalisateurs, qui, après une mission, se rend compte que sa mission pourrait servir à légitimer un meurtre. Donc, Gene Hackman, au fil du film, se pose la question de s'il va rendre ou pas sa mission à ses employeurs.
How do you do it, Harry? Two people. They're convinced that they can't be recorded because they're in a crowd constantly moving. Now, the assignment is to get everything they say.
Who's interested in these two anyway?
I don't know for sure.
Here's the Harry, the best bar none.
What's the matter, Harry? Some guy's following me.
How'd you get this phone number?
It has something to do with the assignment last week.
Later in the week, Sunday maybe.
What are they talking about?
I don't care what they're talking about. All I want is a nice, fat recording.
He'd kill us if he had the chance.
There's one surefire rule that I have learned. I don't know anything about human nature. I don't know anything about curiosity. This is my business.
Don't get involved in this, Mr. Groom. These tapes are dangerous. Someone may get hurt.
Jack to our hotel.
773. Alors du coup, Elias, tu voulais nous parler un petit peu des influences de Coppola sur ce film qu'est Conversation secrète.
Et oui, car Conversation secrète, c'est un peu un film à part dans les films qu'on retient de la filmographie de Coppola, puisque Coppola a toujours été influencé par cette dimension opératique, très baroque, dans son cinéma. On peut le voir avec le Parrain, qui est un opéra à lui tout seul, et Dracula aussi, qui est sorti un peu plus tard, où il reprend aussi une dimension très, très, très influencée par le gothique et le baroque. Ici, Coppola est pleinement dans ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood. Donc, c'est un courant qui est né à la fin des années 60 avec un film de Dennis Hopper qui s'appelle Easy Rider. Et donc, il reprend des acteurs qui sont emblématiques du Nouvel Hollywood, comme Gene Hackman qui joue le rôle principal, John Cazales qu'on peut voir dans Le Parrain aussi, mais qu'on peut voir aussi dans Un après-midi de chien ou dans Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, ou d'autres acteurs moins connus à l'époque comme Harrison Ford qui joue plus tard dans Apocalypse Now. Qui débute Apocalypse Now. Mais surtout, si c'est dans un courant de nouvelles vagues, comme peut l'être le cinéma mondial à cette époque, le cinéma français, le cinéma allemand, ou même le cinéma italien, c'est vraiment un film qui a des influences très classiques. On peut retrouver des influences de Psychose, avec des plans dans une salle de bain, des plans sanguinolents dans une salle de bain.
D'ailleurs, si vous voulez voir ça, il y a un Blow Up, qui est une émission de cinéma sur Arte, qui montre en fait ces parallèles-là. C'est disponible sur YouTube si vous voulez regarder.
Mais aussi, ce sont surtout des influences de l'avant-gardisme italien et français dans la manière de raconter. Et Conversation secrète, et Coppola ne s'en est pas caché, a comme grosse influence un film anglais, tourné par un Italien très célèbre, qui est l'un des théoriciens du néoréalisme italien, donc un courant du cinéma de 1945, qui s'appelle Michelangelo Antonioni. Et donc Blow Up, ça raconte peu ou prou la même histoire. Donc c'est un photographe londonien qui, au fil d'une séance photo, s'aperçoit qu'il a été témoin d'un meurtre. Et les deux films ont à peu près le même traitement de cette histoire, quasiment un thriller, sur le fait que ça traite de la paranoïa. Et Coppola cite beaucoup Blow Up dans divers points de vue, au point de vue narratif, c'est-à-dire une narration qui certes se cloisonne à une histoire qui est celle d'un thriller, mais qui aussi se permet des apartés. Dans Conversation secrète, par exemple, ils vont dans des soirées, des choses comme ça, ils jouent de la musique, c'est totalement en dehors, il y a des passages vraiment en dehors de l'intrigue qui n'ont rien à voir, ce qu'on appelle l'image-temps. Et dans Blow Up, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a cette intrigue de recherche d'un criminel supposé, mais aussi des scènes où le personnage vit une forme de la vie culturelle londonienne de l'époque. Il y a aussi la citation des mimes qui sont des personnages récurrents dans Blow Up d'Antonioni et qui sont présents dans la première scène et dans la dernière scène de Conversation secrète.
Et tu voulais aussi nous parler un petit peu de ce que veut dire le film sur son époque.
Absolument, parce que le cinéma de Coppola, donc je l'ai déjà dit, a une influence très baroque, mais on peut remarquer avec Conversation secrète en fait un réalisme extrême. Dans le sens où il traite en sous-texte de la paranoïa liée à la guerre froide, et c'est-à-dire cette période où tout le monde était peu ou prou sous écoute, où l'on espionnait les gens pour beaucoup de choses. Et c'est un portrait donc de l'Amérique de cette époque, et c'est vraiment attaché à la réalité, donc c'est pas attaché au passé, mais vraiment à son présent, et décrire aussi les évolutions, les avancées modernes, c'est-à-dire en termes d'écoute, des micros qui prennent de beaucoup plus loin, des choses comme ça. Et c'est vraiment un réalisme très fort. On a parlé de l'influence italienne dans la manière de raconter une histoire qui rappelle la Dolce Vita. Bon, la Dolce Vita n'est pas un film réaliste, mais la manière de raconter une histoire l'est, puisqu'elle travaille le temps, elle travaille les apartés afin de coller à une vie bien plus quotidienne. Enfin, j'aimerais dire que Conversation secrète est un film qui donc, comme tu l'as dit, Roman, en introduction, c'est un film qui est la première Palme d'Or de Coppola et qui est un film à voir absolument, puisqu'il est, il marque quand même un tournant dans sa filmographie. Si Le Parrain est l'un de ses films les plus connus, Conversation secrète reste à voir.
Ok, merci beaucoup Elias pour toutes ces précisions.
Ouais, merci. Du coup, Marie, toi, tu voulais nous parler plus de Apocalypse Now. Est-ce que tu peux nous dire vite fait de quoi ça parle et qu'est-ce que c'est comme film ?
Alors, c'est un film vraiment très, très différent de Conversation secrète, puisque c'est plutôt un film de guerre centré sur une guerre qui est aussi contemporaine à Coppola, comme quoi il est vraiment inscrit dans une réalité et dans une contemporanéité, puisque quand le film sort, c'est 4 ans juste après. 4 ans à peine après la fin des combats. Et le film, par contre, lui, se déroule en 1968, alors que comment dire, le capitaine Willard, qui est incarné par Martin Sheen, est appelé par l'état-major américain pour, comment dire, pour éliminer le lieutenant Kurtz, qui est incarné, lui, par Marlon Brando. Le Kurtz est accusé d'avoir trahi l'armée et de s'être détourné de ses fonctions pour devenir le leader d'un groupe d'indigènes dans la jungle du Vietnam. Et il devient du coup à la fois un danger pour les Américains, mais aussi du coup un danger pour les Vietnamiens. Mais c'est une autre histoire, on va dire. Et du coup, le film raconte ce voyage de Willard à travers la jungle vietnamienne et au milieu des combats pour aller récupérer ce lieutenant devenu fou par la guerre. Everyone gets everything he wants. I wanted a mission, and for my sins, they gave me one. You have orders to report to ComSec Intelligence at Nha Trang. Your mission is to proceed up the Nung River in a Navy patrol boat. Pick up Colonel Kurtz's path at Nu Mung Ba. Follow it, learn what you can along the way. When you find the colonel, infiltrate his team by whatever means available, and terminate the colonel's command. Terminate with extreme prejudice. Horror has a face, and you must make a friend of horror. Horror and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. He's got something in mind for you. Aren't you curious about that? I'm curious. You have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. But you have no right to judge me. On a beaucoup parlé de la vie de Coppola et Apocalypse Now, justement, a été un film clé, je pense, dans sa vie, puisque ça a été un film très dur. C'est un tournage qui est dit comme maudit. C'est l'un des, c'était une véritable catastrophe. Alors, il y a eu un ouragan qui l'a interrompu. Il devait durer 2 mois, je crois. Il a finalement passé à 6 mois. Enfin, il a été
16 mois, je crois.
16 mois. Ouais. Il y a Marlon Brando qui a fait, on va dire, sa diva sur le tournage. Il n'a pas appris son texte, il avait des problèmes de drogue. Ce qui fait qu'à l'écran, dans la première version, il est souvent dans l'ombre, à la fois parce que le personnage est très mystérieux et c'est un personnage qu'on décrit très peu dans le livre dont le film est inspiré. C'est un personnage qu'on connaît par la voix et non pas par le physique. C'est pour ça que, du coup, le film a beaucoup joué sur le symbole de l'ombre, pour ne pas en dire trop sur le personnage par son physique, mais plutôt par la façon dont il s'exprime. Il est d'ailleurs connu pour le monologue « Horreur, horreur » à la fin du film. Mais, comment dire, mais du coup, c'est aussi un problème matériel dû à Marlon Brando, ce qui n'empêchera pas, par contre, Coppola de le reprendre par la suite pour le rôle du parrain et de se battre, d'ailleurs, pour l'avoir. Mais il y a eu aussi des problèmes cardiaques de Martin Sheen, qu'il a longtemps caché, d'ailleurs, sur le tournage pour éviter d'effrayer d'effrayer la production et l'équipe technique. Il y a eu des vrais cadavres cachés dans le décor parce qu'un trafiquant lui a, alors qu'il avait demandé des faux corps pour une scène avec les indigènes, un trafiquant lui a fourni des vrais corps, ce qui a fait qu'il a dû retourner plusieurs scènes qui avaient été filmées dans des décors qui n'étaient pas faits pour être montrés. Tous ces problèmes ont fait que le budget a été multiplié par 3, il est passé à 31 millions de dollars, ça a été une véritable ruine parce qu'il a dû, investir son propre argent pour pouvoir le tourner. Mais heureusement, il l'a récupéré grâce au succès du film derrière qui est devenu culte. Le film connaît d'ailleurs deux versions, une de 79 et une de 2001 qui est appelée Apocalypse Now Redux. Et selon moi, les deux versions n'ont pas eu les mêmes spectateurs. C'est-à-dire qu'en 79, c'était vraiment un film de guerre qui était lié à une réalité de l'époque et qui a permis d'expliquer en partie, ou en tout cas qui a tenté d'expliquer en partie les problèmes psychologiques liés aux vétérans de la guerre du Vietnam, parce que c'est à cette époque qu'on commence à voir les premiers soucis liés à cette guerre. On commence à voir l'impact psychologique que ça a eu sur les soldats. Et du coup, ce film peut vraiment permettre aux gens de l'époque d'avoir un recul par rapport à ça. Mais en 2001, 20 ans après, c'est plus un film documentaire sur cette guerre qui nous renseigne davantage qu'elle ne nous divertit. Comment dire ? De plus, cette version a 50 minutes supplémentaires, ce qui a rajouté des scènes notamment... politique avec la plantation française, mais aussi une scène qui a accentué le contraste entre la folie des hommes et un thème qui est évoqué à plusieurs reprises, la sensualité dans un monde où il n'y a que pas ou peu de femmes, puisqu'on ne voit des femmes que dans la version 2001, avec notamment du coup la scène de l'hélicoptère Playboy. Du coup, je voudrais terminer sur le fait que ce film a beaucoup influencé le cinéma par la suite, notamment dans le traitement de la guerre du Vietnam et son lien notamment avec la musique, car il y a un vrai impact sur le traitement entre la guerre du Vietnam et le rock'n'roll notamment.
Ok, merci. Elias, tu voulais rajouter quelque chose ?
Ouais, quand on parlait tout à l'heure des dépassements de budget, ça m'a fait penser à un truc que j'avais lu, c'est que Francis Coppola a quand même aussi, enfin, il a utilisé des millions de dollars pour se faire livrer des steaks congelés et faire construire une piscine derrière sa villa qui était genre dans la jungle ou près des lieux de tournage, quoi. Donc il voulait voilà ses steaks congelés et puis ses petites longueurs dans la piscine. Enfin, il devenait complètement fou, je pense, sur ce tournage.
Alors que pourtant, moi, j'ai lu qu'il avait perdu 40 kilos sur ce même tournage, malgré les steaks congelés.
C'est peut-être qu'il les achète, qu'il les mange.
Peut-être grâce à ses longueurs dans la piscine, hein. Et je te laisse la parole. Tu nous mets une petite musique.
Ouais, on va écouter une chanson, la chanson titre de la bande originale du film Rumblefish. Qui est connu en France sous le nom de Rusty James, hein, qui est en fait le personnage principal. Donc c'est une BO qui est constituée d'un album complet réalisé et composé par Stuart Copeland, qui était le batteur du groupe anglais The Police. Rumblefish, il n'a pas eu de succès du tout à son époque, hein, comme un peu tout ce qu'a fait Coppola dans les années 80. C'est un film assez personnel, mais rétrospectivement... On considère qu'il a eu en fait une influence majeure sur énormément de films qui sont venus après et qui traitent du sujet de l'adolescence au sens large. Il commence à être un petit peu réhabilité aujourd'hui. Sa BO, elle est assez intéressante, c'est un mélange de pop, de folk et de musique expérimentale avec des touches de reggae et de dub qui sont des genres dont on retrouvait l'influence dans les musiques de The Police, et c'est particulièrement frappant au niveau des rythmiques utilisées à la batterie par Stuart Copeland.
And if sometimes I can't seem to talk, you'll know this blackboard lacks a piece of chalk. Don't box me in. I told you not to. Don't box me in. Let go.
C'était Rumblefish, la BO Don't Box Me In de Stuart Copeland.
Merci. Donc, on va revenir à une période qui est un peu moins prospère, hein, pour Coppola, parce qu'on va parler de ses problèmes de financement. Je vais juste parler du début des années 80, où en fait il va réaliser le film avec le plus gros budget de l'histoire du cinéma de cette époque. C'est la comédie musicale Coup de cœur. Il a beaucoup d'ambition pour ce film qui est vraiment plus intimiste qu'Apocalypse Now.
En fait, le budget initial était de seulement 2 millions de dollars, mais avec toutes les ambitions de Coppola, il a explosé et le film a coûté plus de 25 millions de dollars.
Et il veut inaugurer cette décennie d'expérimentation technique avec Coup de cœur. Mais en fait, c'est complètement un échec commercial et ça inaugure plutôt la difficulté de Coppola à imposer son cinéma après, après son triomphe, en fait.
Et c'est à ce moment-là que Coppola est ruiné, il a des dettes, il hypothèque ses biens personnels et il est obligé de déclarer sa société de production Zoetrope Studio en faillite.
Et c'est à ce moment-là en fait, qu'il va tourner tous les films dont Elias a parlé. Et en fait, c'est des films qu'il va essayer d'éponger ses dettes avec ses films. À la fin de cette période, c'est à ce moment-là qu'il accepte d'écrire le troisième volet de la saga du Parrain. Mais c'est un semi-échec. Et enfin, il va signer le film qui va lui permettre de remonter la pente de sa faillite. Il va faire Dracula, qui fait un peu débat auprès des fans du réalisateur. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je n'ai pas du tout aimé.
Je trouve que ce n'est vraiment pas son meilleur film. Il a vraiment une esthétique très étrange. Et pour moi, c'est un film à oublier.
Alors moi, je dirais pas forcément à oublier. J'ai trouvé le début très bien. Le début, je trouve qu'il est stylé. Il y a des beaux costumes, il y a des belles lumières. Mais plus ça avance, plus ça tombe dans du kitsch, en fait. Mais du kitsch qui était peut-être voulu baroque des années 90, mais qui a assez mal vieilli, en fait.
Donc voilà, là, c'est symptomatique des fans du réalisateur parce que bah, ça fait débat.
Ensuite, il a fait deux films ensuite qui sont mis de côté dans sa bibliographie. L'idéaliste et Jack, car il signe avec Disney et Paramount. Souvent, les mauvaises langues disent qu'il a fait ces films-là pour renflouer ses comptes après ses échecs.
Jack est très sympa pour les enfants. Moi, je l'ai vu quand j'avais 9 ou 10 ans et j'avais adoré.
Vous êtes sûr que c'est eux ?
Et comme, bien sûr que c'est eux, il n'y a que les Francis pour manger du poisson cru.
Sur Prune, 92 FM.
Il arrête de réaliser des films pendant 10 ans, après l'idéaliste, mais pendant ce temps-là, il va produire les filles de sa fille et de son fils, dont Elias en a parlé tout à l'heure. Et en 2007, il va revenir avec L'homme sans âge, qui est complètement rejeté par la critique.
Ouais, lors de sa tournée promotionnelle, il déclare au Cahier du cinéma: personnellement, j'ai toujours eu l'impression que du point de vue de ma carrière, j'étais sur le déclin. Je rencontrais systématiquement des problèmes pour faire mes films. Je considère ma carrière divisée en deux parties. La première avec les grands succès et la deuxième où je suis redevenu un étudiant de cinéma.
Et ces trois derniers films, ils sont un peu symptomatiques de cette vision parce qu'ils sont vraiment plus intimistes. Et je voudrais en fait particulièrement faire un focus sur Tétro et je vais vous faire écouter un petit extrait de la chaîne Tétro sur YouTube, c'est Tétro Film, et il introduit ce film en se filmant à bout.
Welcome into my office here in the Napa Valley. I want to just take a moment with you as I try to film this myself. I'm holding my camera in my hand and I want to talk to you about my new film called Tétro. T-E-T-R-O. Tétro is the name of the principal character. It's an original screenplay and really the first original screenplay that I've written since The Conversation many years ago. I shot Tétro in Argentina. My story deals with almost mythic proportions, you know, the classic Greek domineering father and rivalry between brothers, lots of things out of my own life, although in truth I did not have a domineering father and the story is quite fictionalized. It stars Vincent Gallo, a remarkable actor and really quite a brilliant man, and the young Alden Ehrenreich, Maribel Verdú, Klaus Maria Brandauer, and Carmen Maura. Welcome to the world of Tétro. I hope you continue to look in and see what's up. I'm Francis Coppola and I welcome you. Bye.
C'est un film que j'ai vu la semaine dernière en préparant l'émission et en fait j'ai beaucoup aimé sa forme. Il est tout en noir et blanc à l'exception des souvenirs qui sont en couleur. C'est vraiment le film où il y a eu plutôt une bonne critique parce que L'homme sans âge c'était vraiment une catastrophe au niveau de la critique, mais Tétro il a eu quand même des bonnes critiques.
Et Twixt aussi, il y a eu des très bonnes critiques, ouais. Son dernier film en 2012.
Francis Coppola déclare que c'est un film presque bibliographie. Il dit « J'ai vécu les sentiments et les rivalités que je dépeins à l'écran, mais l'histoire du film n'a rien à voir avec la mienne. Par exemple, mon père, Carmine, était un compositeur talentueux, certainement trop centré sur lui-même pour être un artiste accompli. Mais c'était un homme très doux, un père merveilleux. Tout l'inverse de celui que je décris dans le film. »
Prendre quand même pas mal de risques, et c'est ça en fait qui lui a été reproché sur par la critique, surtout pour L'Homme sans âge. Et en plus, il faut savoir qu'il est revenu après 10 ans, donc il y avait beaucoup d'attentes. Depuis 2012, en fait, depuis donc Twixt, son dernier film, il a été président de plusieurs festivals. Et si vous voulez consommer du Coppola neuf, le mieux c'est de goûter son vin, le Francis Ford Coppola Vinery. Ce sont des vins américains inspirés de vins italiens.
Oui, il paraît que son domaine est majestueux et que les recettes de sa vente de vin seraient supérieures aux recettes de ses films.
Et j'ai lu que c'était un peu le Disney du vin. Et du coup, sur cette note viticole, je vous propose qu'on clôt le sujet Francis Ford Coppola et qu'on aille le déguster. Mais juste avant, on va passer au journal des Francis, le culte.
Le père Capucin Francis Solanus, béatifié par le pape François.
Radio Vatican vient de lâcher l'info. Bernard Francis Cazet, dit le père Capucin Francis Solanus, a été béatifié le 18 novembre par le pape François, ou le Pope Francis en anglais. Aujourd'hui décédé, Francis Solanus était un exemple de simplicité et de dévouement envers les nécessiteux et les marginalisés. Pendant la crise des années 20 aux États-Unis, il a notamment créé une cuisine de la charité, donnant de la soupe aux plus pauvres, après avoir demandé des légumes aux entreprises et aux agriculteurs du coin. Un précurseur du glanage alimentaire, en somme. Désormais vénéré comme bienheureux aux yeux des catholiques, le père Francis Solanus reste un bel exemple à suivre.
Le Pope Francis, encore lui, toujours au cœur de l'actualité, reçoit une Lamborghini, une édition spéciale.
Elle est blanche, c'est une Lamborghini Huracan. Elle a été offerte au Pape Francis le 15 novembre. Et s'il avait eu pourtant une légère blessure en Argentine en septembre suite à un freinage brutal de sa papamobile, cette voiture-là ne sera pas sa nouvelle voiture, car loin de la conduire, il l'a signée. Et elle sera vendue aux enchères. Une Lamborghini Huracan se vend autour de 200 000 euros sur le marché, mais celle-ci devrait excéder ce prix-là. L'argent servira à financer différentes œuvres de charité.
Francis Ngannou bat le record du monde de puissance de frappe.
Et oui, le franco-camerounais Francis Ngannou est un Ultimate Fighter de haut niveau, évoluant en UFC, Ultimate Fighting Championship, catégorie poids lourd. En plus de ses prouesses sur le champ de bataille, il est invaincu sur ses 5 derniers combats. Une info vient de tomber. Francis Ngannou détiendrait le record du monde en force de frappe. Sa droite surpuissante terminerait à 129 161 unités contre 114 000 pour le précédent encore. On ne sait pas vraiment ce que ça représente, mais ça doit sûrement faire très très mal.
Un petit peu de douceur maintenant avec Francis Lalanne qui était invité dans Confession intime le 23 novembre dernier.
Francis Lalanne a eu le droit le 23 novembre à un confession intime réservé à sa petite personne où il explique comment il a changé sa vie pour vivre en liberté, dépourvu par choix de tout bien matériel. Vous pouvez revoir cette heure auprès de Francis en replay. N'hésitez pas. En attendant, écoutez un petit extrait de cette formidable émission.
Avec son inséparable guitare et quelques effets personnels, il voyage de ville en ville, de pays en pays. Pendant 3 mois, il s'est filmé au jour le jour dans sa nouvelle vie de nomade.
J'ai vendu tout ce que j'avais. J'ai renoncé à tout ce qui était finalement lié à ma vie sociale. Hein, le compte bancaire, le portable, la maison, plus de maison, plus d'adresse, plus rien. J'habite le vent. Ma maison, c'est la route. Donc un jour, je suis ici, le lendemain, je suis là. Sans domicile, c'est pas une fatalité chez moi. C'est une volonté, c'est un choix de vie.
Vous savez qui est là ?
Non.
C'est Francis. C'est vrai ? C'est pas possible. Non, vous plaisantez? Attendez, j'y vais alors. C'est quand même assez extraordinaire.
Vous écoutez Francis sur Prune 92 FM.
Ça donne envie de voyager quand même. Hein.
Ouais, c'est magique cet extrait, c'est magique.
Je pense que c'est le meilleur extrait qu'on a jamais passé.
Ça, c'est sûr.
Et puis bon, passer un générique de TF1 sur Prune, je trouve ça assez drôle. Donc vous êtes bien dans Francis, l'émission qui explore le monde sous l'angle des Francis, mais ça va déjà être l'heure de se dire au revoir. Avant ça, je vais proposer à chacun de dire un dernier mot et de faire la pub et de recommander quelque chose, enfin, ce que vous voulez en fait. Alexis ?
Ouais, alors moi j'ai un film à recommander que j'ai beaucoup aimé, c'est Détroit de Catherine Bigelow. Et il est sorti le mois dernier, il raconte l'histoire des émeutes de Détroit de 1967 sous fond de ségrégation raciale. Tiens, on y revient toujours aux États-Unis, décidément. Une partie du film se déroule dans un hôtel où des policiers soutenus par l'armée prennent un plaisir sadique à interroger un groupe de racisés. La mise en scène, elle est haletante, la tension, elle est bien présente. Les acteurs sont très bons et incarnent parfaitement la cruauté policière et la jouissance malsaine du pouvoir. On en ressort bouleversé, du moins pour ma part, plein de haine envers la police et ses dérives. En définitive, c'est résolument actuel, surtout par les temps qui courent à Nantes. On big up à tous les camarades. Et bien, t'as une recommandation, toi ?
Ouais, j'avais une recommandation. Donc, je vais recommander un film dont Elias a parlé tout à l'heure. Il en parlait durant son intervention. Il l'a évoqué brièvement. C'est Un après-midi de chien, Dog's Day Afternoon, sorti en 1973 de Sidney Lumet et avec le fameux John Cazale, qui a fait une carrière très très courte au cinéma hein, pendant. Parce qu'il est mort assez jeune, en fait, à 42 ans. Et il a eu une carrière au cinéma après sa carrière au théâtre pendant 6 ans. Et en 6 ans, il est apparu dans 6 films, dont Le Para, le premier et le second, et Conversation secrète de Coppola. Et donc, dans Un après-midi de chien, il joue avec Al Pacino, qui lui aussi est apparu chez Coppola. Et c'est un film sur deux personnages joués par Pacino et Cazale, qui interprètent deux braqueurs qui veulent se faire une banque, mais c'est vraiment des... ils sont vraiment pas faits pour ça, quoi. C'est un peu des bras cassés, ils échouent dans leur projet. Et ce polar, en fait, c'est vraiment une dénonciation assez violente de l'establishment financier et politique des États-Unis de l'époque. Et ça charge aussi sur les médias de la société du spectacle et les diverses discriminations présentes dans la société américaine, hein, qui sont d'ailleurs toujours autant présentes aujourd'hui. Et c'est vraiment superbement interprété par Al Pacino et Cazale, qui sont vraiment au top de leur art.
Et moi, je voudrais conseiller... alors, je ne vais pas parler de films, mais je vais vous parler de podcasts qui parlent de cinéma. Et il y en a plein. Alors, je vais vous conseiller Osef, le podcast, parce que c'est un mec qui vient de Nantes qui fait ça. En gros, il va au cinéma toutes les semaines et il va voir un film dont on parle peu. Et du coup, il fait une critique, c'est assez drôle et le ton est assez cool. Donc, je vous conseille Osef le podcast. C'est disponible sur SoundCloud et sur iTunes. Et on fait une reco connue qui est Super Ciné Battle, où c'est deux personnes qui font en gros, ils reçoivent des listes de 3 films et ils établissent une liste des meilleurs films du cinéma ou des pires films du cinéma. Donc, ils font ça par dizaines d'années. Et du coup, je vous conseille ce podcast parce qu'il parle bien de cinéma. Et en plus, deux films très bien, deux films très nuls. Et voilà, donc je vous conseille ça. Et pour Francis, donc si vous voulez nous suivre, c'est sur Twitter, @FrancisPrune. C'est sur Facebook aussi. Et sur le site de Prune, vous aurez toutes les informations, donc tous nos conseils, notre bibliographie. Et n'hésitez pas à regarder un peu plus et n'hésitez pas à aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent et que vous avez entendues dans l'émission. Merci beaucoup, on va remercier nos deux invités. Donc merci Marie.
De rien, c'était un plaisir.
Donc, on pourra t'écouter sur Curiosité tous les mardis. Et merci, merci Elias. Elias.
Ouais. Attends, merci à vous de m'avoir écouté.
Et pas de soucis, bonne journée.
Et puis, on pourra t'écouter, toi, le dimanche sur Rouge Fauteuil. Merci à vous deux.
Ouais, merci beaucoup.
Donc restez à l'écoute de Prune car vous aurez le droit au super programme de Prune comme toujours sur le 92 FM. Alors Elias,
ouais, on va terminer avec une chanson de Michael Jackson, We Are Here to Change the World, qui était le générique de fin d'une attraction pour Disneyland qui s'appelait Captain Neo. Et Captain Neo, c'était en fait un personnage joué par Michael Jackson, qui était un capitaine de vaisseau spatial. Enfin bref, c'était un film avec tout plein d'effets spéciaux, de la 3D, sûrement de la pyrotechnie même. Et donc Coppola avait coproduit ça parce qu'il avait vraiment beaucoup besoin d'argent, c'était en 1984. Mais fidèle à lui-même et à ses ambitions toujours un peu démesurées, le film dure un peu plus d'un quart d'heure, hein, 17-18 minutes. Et il est considéré encore aujourd'hui comme un des clips les plus chers de l'histoire si on rapporte son coût à la minute. Allez, c'est parti pour Michael Jackson.